Madame Caroline Cornu.
Pouvoir.
Monsieur Khalid Aït Omar.
Présence. Bon.
Monsieur Pierre Laroche.
Pouvoir.
Madame Diane Zetoun.
Pouvoir.
Monsieur Jean Vélasser.
Pouvoir.
Madame Corinne Leroy-Burel.
Pouvoir.
Monsieur Jean-Philippe Elie.
Présent.
Monsieur Karim Arnaud. Madame Cécile Boucherie.
Présente.
Monsieur Alban Thomas.
Présent.
Monsieur Richard Proche.
Présent.
Madame Floriane Degnaud.
Présent.
Madame Dominique Guillaume.
Présent.
Monsieur Arash Derambarch.
Présent.
Et Madame Ghislaine Guessou.
Présent.
Merci beaucoup. Avez-vous une observation à formuler sur le compte rendu de la séance du 7 avril 2015? Merci. Premier dossier. Convention entre la ville et l'établissement public foncier des Hauts-de-Seine et l'Achelage. Conscient de l'effort de construction de logements nécessaires pour répondre aux enjeux du Grand Paris, la ville souhaite contribuer à l'objectif de production de logements visé à son territoire au titre de la COCAT signée avec l'État le 14 mai 2012. Dans le cadre d'ailleurs de ce projet d'éducation européenne du l'Achelage, actuellement à l'étude, la ville a identifié des secteurs potentiels mutables sur lesquels pourraient être majoritairement réalisés des logements, contribuant ainsi à un objectif de mixité, de fonction et de mixité sociale. Afin de pouvoir maîtriser l'ensemble des mutations foncières intervenir sur ce secteur, le Conseil a décidé, par délibération du 9 février dernier, de renforcer le droit de préemption notaire sur le périmètre du village de l'âge. Le coût du foncier étant une des principales conditions pour produire une offre de logement accessible, il est opportun, dans la mesure du possible, de réduire les dépenses de la commune et pour cela de trouver une alternative en matière de portage foncier. L'établissement public foncier des Hauts-de-Seine a pour vocation de favoriser la réalisation de logements en intervenant sur le champ du portage foncier préalable. La ville et l'hôtel 92 se sont donc approchés pour définir conventionnellement une modalité de leur collaboration. Par cette convention d'une durée de 10 ans, la ville charge le PF 92 de procéder aux acquisitions foncières et immobilières ainsi qu'aux travaux en vue de la revente des biens acquis. Dans le secteur opérationnel de l'îlot Paulbert et dans le secteur d'anticipation, il offre Moulin des Bruyères. Dans l'hypothèse où des opportunités d'acquisition sont présenterées à proximité de ces secteurs, la ville et l'EPM vont se rapprocher pour procéder éventuellement à une extension du périmètre. Par délibération, je vous rappelle, du 15 avril 2014, le Conseil m'a délégué l'exercice du droit de préemption et du droit de priorité en application des dispositions de l'article L2122. Et L21-22-22 du Code général des collectivités territoriales, et afin que le PF 92 puisse remplir les missions qui lui sont confiées, il est nécessaire que les droits de préemption et de priorité soient délégués sur chacun des îlots concernés par la présente convention, étant précisé que cette délégation sera exécutoire qu'à compter de la signature de la convention par les deux parties. En conséquence, l'acquisition de l'EPF 92 pour s'exercer soit par voie amiable, soit par préemption ou exercice du droit de priorité pour ce qui concerne le secteur opérationnel, éventuellement par voie d'expropriation. Les acquisitions sont systématiques en secteur opérationnel et feront l'objet d'un examen au cas par cas dans le secteur d'anticipation. Ce dossier a été présenté donc à la commission de l'urbanisme du patrimoine et de l'environnement le 18 mai 2015. Donc, demander au Conseil d'approuver la convention de partage foncier à intervenir entre l'EPF 92 concernant le secteur opérationnel de l'île Paulbert et le secteur d'anticipation île Europe Moulin des Bruyères et de m'autoriser à le signer et à l'exécuter. Et de retirer sur ces deux secteurs délimités au plan annexé du présent délibération jointe à la convocation de la présente séance, la délégation du droit de préemption et du droit de priorité qui m'a été confiée par délibération du 15 avril 2014 et de déléguer les 10 secteurs ces mêmes droits à l'établissement public foncier des Hauts-de-Seine qu'on appelle le PH 83.
Donc, monsieur le maire, nous avons déjà quelques questions. Donc, nous comprenons dans le dossier que les zones qui seraient du coup gérées par l'établissement public foncier recouvrent, permettront de réaliser 750 logements. Alors, vous savez, on a eu une seule information en tant que conseiller municipal pour l'instant de ce très grand projet Village de l'âge. Donc, ça tient en une présentation de quelques slides il y a plusieurs mois. Et donc, dans cette présentation, il y avait marqué que le résidentiel ferait 80 000 m². Donc, 80 000 m² divisé par 750, Ça veut dire que les logements feraient plus de 200 mètres carrés en moyenne. Donc on se dit que, en fait, ça ne recouvre pas tous les logements, je présume.
Donc si vous avez 30% de logements sociaux, automatiquement.
Oui, mais donc, dans le dossier, on a vu qu'il y aurait 750 logements sur les deux zones transférées à l'EPF, dont des logements sociaux.
Donc 30%.
Voilà. Mais donc sur les 750 logements sociaux ou pas sociaux, ça nous étonnerait donc que ces 750 logements fassent les 80 000 mètres carrés de résidentiel tel qu'il est prévu dans le projet. Alors c'est une question, est-ce que, en fait, combien de logements prévoyez-vous de faire sur cette zone?
Écoutez, pour le moment, c'est 750 logements. En plus, il y a une discussion avec l'État pour savoir s'ils en veulent un peu plus. Donc pour le moment, le prévoyement, puisqu'on n'a pas encore fait, disons, le calcul, en gros, on peut compter entre 3 000 logements. Donc 30% de logements sociaux, c'est ça, c'est ce que l'État nous demande.
Très bien. Merci. Alors ensuite, on a une autre question. Un établissement public foncier a vocation de prendre en charge, en général, les prestations intellectuelles. Et donc, du coup, on se demandait ce que vous envisagez de faire pour tout ce qui est consultation des prestataires qui feront les études préopérationnelles. Est-ce que cette partie-là sera, du coup, gérée? La consultation sera gérée par l'établissement public foncier ou est-ce que ça sera gardé en main par la ville?
Si c'est dans leur périmètre, bien entendu, ça sera avec eux, mais pas eux tout seuls. Ça sera toujours partie prenante.
Ça sera avec eux. Mais du coup, formellement, qui lancera cette consultation?
La ville.
D'accord. Et vous avez des délais?
Non. Tant qu'on n'a pas signé avec l'État, on ne sait pas encore comment commencer. Dans les mois qui viennent, normalement, l'État serait, disons, relativement d'accord pour pouvoir environ 1000 logements.
Alors j'ai aussi une autre question. Donc on a voté sur une délibération qui parlait des établissements publics fonciers, où en fait... votre municipalité regrettait officiellement la fin des établissements publics fonciers et notamment la fusion d'établissements publics fonciers des Hauts-de-Seine dans un établissement public foncier d'Île-de-France. Donc cet établissement, malgré tout, le gouvernement l'a décidé, on arrivera à un établissement public foncier d'Île-de-France unique, ce qui est compatible avec le fait que la compétence d'aménagement sera quand même gérée maintenant. Avec la redistribution des cartes territoriales sera quand même gérée par la région, donc ça a quand même du sens d'avoir un établissement public foncier d'Île-de-France. Mais en tous les cas, qu'on le déplore, vous, ou qu'on ne déplore pas, nous, la réalité est que l'établissement public foncier d'Île-de-France, du 92, va prendre fin en fin d'année, nous semble-t-il. Donc on se demande pourquoi vous n'avez pas... Vous avez quand même préféré passer par l'établissement public foncier du 92, alors qu'il faudra, vraisemblablement, toute certitude, transférer ce dossier-là directement ensuite en fin d'année.
Je dis que dans quelques mois, nous aurons signé avec l'État. Donc les conventions seront reprises dans l'établissement public régional. C'est pour ça que nous allons le faire.
D'accord. Alors je vais me permettre, moi, du coup, de faire notre commentaire global. En fait, par ces questions-là, c'était pour vous signaler que voilà, on a une vision. Alors, c'est la dernière très grande opération d'urbanisme qui va se passer à Courbevoie. On déplore quand même qu'on a des informations très parcellaires. On a eu ce dossier-là et on apprend seulement par le petit bout de la lorgnette. On voit 750 logements là. On voit que la carte que nous aviez donnée, qui répartissait le résidentiel des bureaux. Ne correspond pas à la carte qui est dans le dossier. Donc, on n'a aucune visibilité sur cette grande opération. Voilà. Donc, nous, pour la même raison que la dernière fois, on avait voté contre le droit de préemption urbain renforcé, nous allons voter contre là aussi. C'est vraiment parce que on souhaiterait être associé, comprendre la logique de votre, enfin, ce que vous envisagez vraiment de faire plus que des slides, pour qu'on puisse comprendre quand les délibérations viennent les unes après les autres, qu'on puisse les situer dans un contexte. Vous voyez, là, on a 750 logements, donc on se dit qu'il n'y a pas tout, les cartes bougent. Donc voilà. Et donc, dernier point, puis voilà, c'était aussi pour vous dire qu'on déplore quand même le fait que le. Enfin, on réitère, nous, qu'on pense qu'un établissement public foncier régional fait beaucoup plus de sens. On rappelle que ces établissements publics fonciers du 92, du 95 ont été créés de manière spéciale par ces. Conseils généraux, en fait, parce que la majorité politique n'était pas la même à la région et dans les départements. La réalité, c'est que, en pratique, là, vous prenez le risque de travailler avec un premier organisme qui va fermer dans quelques mois. Donc, on aurait trouvé ça plus pragmatique, une fois que la décision du gouvernement a été faite, plus pragmatique de s'adresser directement à l'établissement public foncier qui va continuer à travailler à partir du 1er janvier.
D'abord, le projet n'est pas encore stabilisé, donc c'est pas la peine de les décider. Bon, après, ces idées, elles sont là, elles sont publiées partout, et elles sont avec votre façon de voir et qui est la nôtre. Donc c'est pour ça que vous m'évitez quand même. Je crois que j'ai obtenu des leçons sur certains projets, j'ai compris maintenant comment faire. La deuxième chose, pourquoi nous ne souhaitions pas l'établissement public régional, parce que le public régional impose ce qu'il veut sans connaître les villes. C'est un petit peu ce qu'on aura d'ailleurs la plupart du temps avec la métropole du Grand Paris, si jamais. Disons, tout l'urbanisme remonte là-haut. Et donc, nous préférons aujourd'hui gérer avec l'établissement public foncier, disons, départemental. C'est pour ça qu'on essaie de faire le maximum pour qu'avant la fin de l'année, cela soit signé. Parce que, comme je l'ai dit, les conventions continueront. Sinon, on perdrait un an, ça serait ridicule. Alors qu'il y aurait peut-être des possibilités pour des personnes extérieures d'acheter, disons, des terrains pour commencer la construction. Et ça, pour le moment, je n'ai pas du tout de possibilité de le dire parce que je ne le sais pas. Comme c'est un projet comme cela, ça évolue. Et ça évolue en fonction de la demande et en fonction, disons, des finances que les gens peuvent mettre et en fonction aussi des finances de l'État. Enfin, quand on parle de descente de 750 à 1000 logements, on peut dire qu'on fait une belle opération quand même. Non, 30% de choses. Voilà. Et sinon, je vous tiendrai au courant, bien entendu, quand quelque chose sera plus concret. Quand c'est pas concret, ça change tellement.
Et une question, les équilibres résidentiels 80 000 m², bureaux 200 000 et commerce 10 000, vous restez sur ces équilibres-là ou ils sont susceptibles de bouger aussi?
Pour le moment, oui. Pourtant, ça peut évoluer aussi. Donc, on va passer. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Dossier, c'est madame.
Par une convention en date du 5 janvier 2011, la ville a délégué à Dalkia France le service public de production et de distribution d'énergie calorifique et frigorifique dans une partie du territoire de la commune, périmètre défini à l'article 7 du contrat de concession. Pour une durée de 7 ans, ce service public est exploité par une société dédiée, Sénévia. Par un avenant numéro 1 en date du 21 septembre 2012, la ville et Sénévia ont entériné les modifications du programme de travaux de premier établissement défini en annexe 12 du contrat de concession, ainsi que les modifications rectificatives intervenues sur certaines clauses contractuelles. Cette convention intègre la fourniture de gaz comme énergie primaire nécessaire à l'exploitation des équipements implantés sur le réseau ainsi concédé. Or, l'article 25 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation met en œuvre la disparition progressive des tarifs réglementés de vente du gaz naturel. En conséquence, il est nécessaire de modifier par avenant les conditions fixées à l'article 61, indexation des tarifs de la convention, déterminant les modalités de révision de l'élément RC1. Ensuite, la puissance souscrite auprès de la SUC étant inférieure à celle initialement prévue, l'article 63 compte d'investissement durable est modifié pour en tenir compte, ce qui permettra en raison de nouvelles recettes de financer partiellement ou totalement les projets de raccordement permettant une meilleure performance environnementale. Enfin, le programme de travaux de premier établissement est modifié. En effet, il est prévu de raccorder au réseau de chauffage urbain les résidences 2, 4, 16, 20 rue Massenet et 10 rue Simonin en substitution au programme d'installation de panneaux solaires sur les résidences Capricorne, Verseau et Saint-Denis. Ce dossier a été présenté à la commission de l'urbanisme, du patrimoine et de l'environnement le 18 mai 2015. Il est demandé au Conseil d'approuver l'avenant numéro 2 à la convention de délégation de services publics de production et de distribution d'énergie calorifique et frigorifique. Il est d'autoriser Monsieur le maire à le signer et à l'exécuter.
Merci. Question.
Bonsoir. Nous avons quelques questions sur cet avenant. La première question concerne les différents interlocuteurs qui sont mentionnés dans ce document. Vous en citez trois, qui sont Celevia, Dalkia et la SUC. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le lien logique entre les différentes composantes de cette délibération ?
Le délégataire et Celevia avec la société qui intervient sur la ville, non, c'est le contraire. Le délégataire est Dalkia avec la société qui intervient, qui fait partie du groupe qui est Celevia, et la SUC qui est ce qui produit, si je ne me trompe pas, le sport.
D'accord. Deuxième
groupe de Celevia.
Dans ce cas, quel est le lien entre l'intervention de la SUC dans cet avenant et l'enquête publique qui a pris fin il y a deux jours au sujet de l'augmentation de la capacité de pompage en Ardenne pour accroître les capacités de climatisation de la défense?
Je vous répète, hein, la SUC, c'est le délégataire du CQDEF pour le froid pour la ville.
D'accord.
En ce qui concerne la question que vous posez, je ne suis pas en mesure de vous répondre pour l'instant. Je veux bien vous porter des informations par écrit si vous souhaitez.
Je veux bien signer. J'ai également une autre question. Le document mentionne l'abandon des tarifs réglementés de vente du gaz naturel. Or, on peut s'attendre à moyen voire long terme une augmentation des prix de cette matière première. Quelles sont les précautions que vous comptez prendre pour protéger les groupes voisins de cette hausse des prix?
Pour l'instant, la déréglementation n'est pas pénalisante pour les usagers. D'autre part, cette délégation service public prenant fin en 2018, nous allons entamer dès maintenant, d'ailleurs je crois qu'il a été demandé à tous les groupes de la ville de désigner un délégué dans ce groupe de travail sur le chauffage, sur le banquier. Donc nous pouvons notamment réfléchir à cette précaution que nous avons.
Je rappelle, madame, que je ne connaissais pas qu'il y a quelques années, la convention s'arrêtait. J'avais souhaité que l'on puisse déjà faire une commission pour parler sur les 15 ans. Mes collègues réunis opposition contre eux ont dit non, ça serait bien pour 7 ans. Vous savez que pour 7 ans, ça serait celui qui est en place, parce que faire une étude, c'est important, ça coûte de l'argent, donc on a repris celui pour 7 ans. On a pensé quand même, et à Paris, ça n'avait pas été toujours au conseil, même si elle est dans la salle, je la salue, il faut qu'elle ne peut pas se passer de ce conseil, puisqu'elle est là ce soir, que c'est le conseil. On avait souhaité qu'il y ait donc une commission qui se réunisse pour étudier, pour les 10 ou 15 ans, quels seraient les chauffages qui seraient à l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, on pense au gaz, ça peut être le charbon, ça peut être l'usine, disons, la géothermie, ça peut être le solaire, ça peut être la tâche. Donc c'est pour ça que cette commission se réunira assez prochainement pour pouvoir recevoir ceux qui seraient éventuellement susceptibles de nous aider dans ce domaine pour qu'on puisse choisir, disons, en 2018, comme dit Mme Limoges, disons, le délégataire pour les 10 ou 15 ans, parce que si on fait 5 ans, on aura toujours le même. Les études, d'après ce qu'on entend, pour au moins avoir 15 ans à peu près, disons, dans cette visite. En sachant qu'il peut y avoir des nouvelles sources de chauffage, ou on peut multiplier les nouvelles sources de chauffage pour avoir des coûts moins élevés.
D'accord.
L'objectif, effectivement, n'est pas de pénaliser l'usager par retard, mais il faudra effectivement réfléchir aussi à ce sujet.
D'ailleurs, puisque vous parlez d'énergie renouvelable et de panneaux solaires, en quoi le raccordement à une chauffe gaz de quelques résidences peut-il se substituer au programme d'installation de panneaux solaires, comme vous le mentionnez dans votre plan?
Il ne se substitue suis pas, il s'avère que l'installation de panneaux solaires qui était prévue sur ces résidences a pris pour trois raisons principales n'avait pas d'intérêt. C'était déjà l'amortissement réalisé en 20 ans, quand on sait que la durée de vie des panneaux solaires est inférieure à 20 ans. D'autre part, ces panneaux solaires n'étaient utilisés que pour la production d'eau chaude, contrairement aux chaufferies qui produisent à la fois le chauffage et l'eau chaude. Et d'autre part, on sait très bien que avec les panneaux solaires, l'eau chaude est produite essentiellement sur des périodes où elle est moins utilisée, c'est-à-dire l'été où il y a moins d'eau et où elle est moins utilisée. Donc le bilan économique de cette installation de panneaux solaires est d'être négatif à ce triple objectif. Alors que le raccordement de ces trois ou quatre résidents de logis au chauffage urbain est pour le coup un modèle économique satisfaisant, puisqu'en mutualisant à la fois le chauffage et l'eau chaude sur ces résidences, c'est un moindre coût à la fois pour l'usager et pour la production.
Mais un coût environnemental un petit peu
plus important. Pas forcément. On sait parfaitement que le coût environnemental des panneaux solaires, notamment en termes de composants, n'est pas forcément excellent. Et d'autre part, le coût environnemental là pour le faible résultat, c'est-à-dire essentiellement de la production d'eau chaude qui n'aurait pas couvert les besoins, n'était pas, le bilan environnemental n'était pas meilleur que le bilan économique. Qui ne nous empêchera pas effectivement de travailler là sur des solutions environnementales satisfaisantes et de plus grande ampleur pour le projet. Mais sur ce coup-là, ni le bilan environnemental, ni le bilan économique n'est plus possible.
Ensuite, on ne peut malheureusement pas augmenter indéfiniment la production ou la consommation d'énergie. Est-ce que notre municipalité peut faire preuve d'une réelle volonté politique pour aller vers plus de sobriété et moins de consommation d'énergie?
C'est ce qu'on est en train de faire. On rentre dans une semaine du développement durable que la ville a choisi de placer sous le thème de la semaine sans pétrole. Donc c'est un signe fort, un signe pédagogique effectivement plus que réel, mais c'est un signe fort. D'autre part, là, on parle de l'office, mais je pense notamment au programme de réhabilitation. De réhabilitation des résidences dans l'office qui, en prévoyant des isolations bien meilleures, répond à ce besoin de moins consommer d'énergie, effectivement. Il y a tout un tas d'exemples dans la ville qui montrent qu'effectivement on s'engage sur cette réduction de consommation en même temps sur ce qu'on espère s'engager sur une modification des énergies.
Mais en même temps, vous augmentez les capacités de production. Donc, oui.
Au niveau de l'office, nous travaillons également avec les locataires sur les équipistes.
J'entends favoriser l'installation d'auto libres, des choses comme ça. C'est aussi, tout un tas de gestes sont symboliques de cette nécessité de réduire la consommation énergétique.
La ville, depuis plusieurs années, depuis un peu plus de 2 ans, a développé un contrat de performance énergétique, CPE. Tous les investissements qui sont réalisés en la matière des rénovations de bâtiments, des réhabilitations, suivent les prescriptions de ce contrat de performance énergétique, de manière à adapter les travaux des bâtiments en conséquence. Donc, chaque année, lors du vote du budget, il y a un exposé qui est effectué sur les investissements qui sont ciblés et qui rentrent dans le cadre de ce contrat de performance énergétique. Tous les bâtiments neufs que la ville a construits répondent bien évidemment à tous ces éléments de souci de performance énergétique.
Pour rebondir sur ce que dit M. Gimonet, je voulais rajouter aussi que la ville s'est engagée dans la réalisation de tableaux de bord urbains avec GDF Suez,
et que le premier indicateur choisi, le premier tableau de Boriobin qui devrait voir le jour avant l'été, c'est la consommation énergétique, justement, pour avoir une vue réelle, en temps réel, de la consommation énergétique dans la ville, et donc pour pouvoir agir. L'objectif, c'est pas de regarder ce qui se passe, mais c'est de pouvoir agir sur cette consommation.
Qui s'abstient ? Qui est contre ?
Ça ne vous empêchera pas de participer.
J'espère pas. Toi, c'est sûr.
En espérant qu'on aura des... Voilà, le renouvelable sera effectivement avec une vision à long terme implanté et voilà.
Adhésion au groupement de commande avec le CIPEREC pour les services et fournitures en matière de système d'information géographique. La ville est adhérente au CIPEREC pour différentes compétences, notamment la fourniture d'électricité et la téléphonie fixe et mobile. Aujourd'hui, le CIPEREC propose à la ville d'adhérer au groupement de commande pour les services et fournitures en matière de système d'information géographique. Cette adhésion permettra à la nouvelle réglementation concernant le positionnement des réseaux à risque électricité et gaz eau sur le territoire de la commune. Par ailleurs, elle permettra également de bénéficier d'une veille juridique et d'une aide dans l'instruction des déclarations d'intention de commencer les travaux DT-BICT ainsi que les prestations foncières par des géomètres experts. Cette adhésion représente un coût annuel de 9 800 euros pour une durée de 3 ans. Ce dossier a été présenté à la Commission d'urbanisme, du patrimoine et de l'environnement le 18 mai 2015. Il est demandé au Conseil d'approuver l'acte constitutif du mouvement de commande avec le CIPEREC pour les services et fournitures en matière de système d'information géographique et d'autorise M. le maire à le signer et à l'exécuter ainsi que l'ensemble des documents en lien avec le CIPEREC.
J'abstiens. Qui est contre ? Merci. Dossier suivant.
Alors, le dossier suivant a pour but de remplacer un certain nombre de conseillers de quartier à la suite de démissions. Pour le conseil de quartier Faubourg de l'Arche, Monsieur le maire a reçu les candidatures de Monsieur Philippe Birkenstock, de Monsieur Gilles Desmier et de Monsieur Jean Guedet pour le groupe La Défense des intérêts de Courbevoie. Pour le conseil de quartier Gambetta, Monsieur le maire a reçu la candidature de Monsieur Didier Duplan pour le groupe La Défense des intérêts de Courbevoie. Pour le conseil de quartier Cœur de Ville, Monsieur le maire a reçu la candidature de Madame Ghislaine Coès-Martinotto pour le groupe Divers Droite. Pour le conseil de quartier Bécon, Monsieur le maire a reçu la candidature de Madame Karine Fless pour le groupe La Défense des intérêts de Courbevoie. Je vous propose de procéder au scrutin à main levée dans les conditions de l'article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales.
D'accord. Si c'était vous, c'est la même chose. Pour le moment, c'est chez nous.
C'est chez nous,
mais
oui.
On a juste une petite question sur la forme. On a eu dans le projet de délibération, on avait le nom du candidat pour le groupe divers droite, mais on n'a pas les noms pour. On découvre en fait ce soir les noms que vous proposez. Voilà, on trouve que il y a une différence un petit peu de traitement.
C'est pas volontaire, c'est simplement le délai de vérification, d'inscription sur les listes électorales, de vérification d'adresse, c'est vraiment pas volontaire. Donc voilà, c'est le délai de réception des candidatures et après de traitement des... voilà, c'est vraiment pas volontaire.
Parce qu'effectivement, la prochaine fois, nous, on serait intéressés pour, voilà, quand on... quand on prépare le conseil, d'avoir effectivement le plus d'informations possible. Donc si... Enfin là, du coup, c'était presque... Enfin, c'était un peu... surprenant, voilà, d'avoir un nom qui était donné, mais pas le...
Parce que c'est une démission qui est intervenue bien antérieurement, donc le remplacement était déjà prévu très longtemps, et là, elles sont intervenues plus récemment, donc voilà, c'est juste un délai de traitement de vérification.
D'accord. Mais en même temps, on a quand même plusieurs conseils municipaux qui viennent, donc on aurait pu attendre... Là, nous, on est preneurs d'une information un peu plus tôt, si c'est possible.
L'objectif, c'est d'avoir des conseils de quartier qui fonctionnent aussi, de nous remplacer au plus vite les gens qui démissionnent pour avoir... fois le nombre suffisant de conseillers de quartier. Vraiment, n'y
voyez pas mal. C'est-à-dire que sur les projets que vous avez reçus, il n'y avait pas les noms.
On n'avait que le nom du groupe divers droite.
Sauf divers droite.
Mais ceux qui sont sur le site.
Donc on avait, voilà, alors en gros les trois quarts des noms, on ne les avait pas.
Bon.
Et donc ça fait une différence de...
Alors, sur le projet d'élévation, ça mentionne les noms.
Bah oui, parce qu'il y a le projet d'élévation.
Ah mais nous, alors en fait, je pense qu'on n'a pas, en fait, c'est quand on a les dossiers, selon qu'on est dans l'opposition, la majorité, nous, je vous assure hein, que nous, les dossiers qu'on a reçus donc, il y a quelques jours, il y avait le nom du groupe divers droite, mais pas le nom du groupe majoritaire. Donc c'est, bah, c'est différent de traitement un petit peu surprenant.
Bon,
en
sorte que ça soit.
Merci.
Donc on ferme le décor. Si ça tient, qui est
contre,
qui abstenait, d'accord. Qui est contre, merci beaucoup.
Ils sont déclarés élus en qualité de représentant de la ville locale du Conseil de quartier de Fontaine-de-l'Arche, M. Philippe Lefkenstock, M. Gilles Bélier, M. Jean Cudet, et déclaré élu en qualité de représentant de la ville locale du Conseil de quartier Gonvétien, M. Didier Duplan, et déclaré élu en qualité de représentant de la ville locale du Conseil de quartier Paul-de-Ville, Mme Gisèle Rouette-Martineau, et déclaré élu en qualité de représentant de la ville locale du quartier des Cons, Mme Perrine.
Allez, donc, si je regarde bien, libération du 20 juillet, élection du conseil de quartier, c'est-à-dire aussi libération du conseil municipal. Donc, ça avait été bien avant, vous voyez. D'accord. Non, je ne comprends pas ce que c'était marqué sur le projet de libération. Il y avait des noms.
Pas sur le papier qu'on.
Bon.
Regardez, sur le nôtre, il y a vraiment.
Vous pouvez nous montrer, c'est quoi, vous mettez ça à la fin du conseil?
C'est pour tout le monde pareil, quand on voit la libération, il n'y a pas de libération à vous, mais de libération à Yves et Simon. Tout le monde a la même délibération. Je ne comprends pas pourquoi il n'y avait pas les noms. Oui,
non.
Okay, excusez-moi.
Une erreur, oui. Ils y sont là.
Mais
ils n'étaient pas dans les. On s'est réunis le plus tôt possible pour les commissions. Et là, il y avait. Donc il y a eu un document qu'on a vu passer.
Ouais,
il y avait...
C'est normal, parce que les libérations, il n'y a pas raison que vous n'ayez pas. D'accord. Donc,
avant les commissions, on avait effectivement juste le nom de monsieur. Parce qu'on était en train de
faire.
D'accord.
Bon, ça
ne
change pas votre vote.
Ça ne change pas votre vote.
Bon. Je me souviens pour vous qu'on ne puisse pas voter aussi pour votre candidat. Si ça se fait.
Comment ça?
Je me souviens que pour vous, je ne puisse pas voter pour votre candidat pour qu'on soit égalité quand même.
Vous avez votre libre arbitre.
D'accord,
non,
je
ne tiendrai
aussi.
Écoutez, on ne connaît pas les personnes.
Non,
donc,
on ne connaît pas les personnes. Je ne tiendrai aussi. Bon, très bien. Merci, Mme Limoges. On va passer à M. Gimelet.
Il s'agit d'une décision modificative du budget ville, donc décision modificative numéro 1. Cette décision modificative s'équilibre en recettes et en dépenses, tant en investissement qu'en fonctionnement, et ce conformément au tableau qui a été joint à la convocation à la présente séance. Cette décision modificative porte essentiellement sur des attributions de subventions prélevées donc sur les provisions budgétées à ce titre. Ce dossier a été présenté à la commission finance du 26 mai 2015. Conformément au règlement intérieur du conseil municipal et de cette subvention aux associations, ont aussi été présentés selon leur thématique au sein de la commission des sports et de la culture. Il est demandé donc au conseil de voter cette décision modificative numéro 1 du budget ville. Je vous rappelle que certains de nos collègues nous ont fait savoir que faisant partie de l'association, ils ne souhaitaient pas prendre part au vote concernant ces délibérations et le détail figure dans le projet de délibération qui vous a été transmis.
Question.
Monsieur. Question. Est-ce que vous maintenez le principe de ne pas donner une subvention la première année quand une association se. Ou est-ce que. Là, on n'a pas vérifié. Est-ce que c'est le. Enfin, voilà. Est-ce que c'est un principe que vous aviez édicté? Est-ce que vous le.
C'est un principe n'est écrit nulle part.
D'accord, donc c'est pas. Donc c'est pas.
C'est un principe, à partir du moment où il est écrit nulle part.
D'accord, donc c'est pas une règle que vous. D'accord. Alors, voilà, ce qu'on n'a pas vérifié. Donc, en fait, dans ce, effectivement, cette décision modificative, donc c'est, il est essentiellement question de subventions supplémentaires. Alors, on découvre en fait qu'il y en a de deux types. Il y a des subventions en liquide, enfin, en argent sonnant et trébuchant. Donc là, voilà, on n'a pas vérifié, on se demandait si effectivement, en général, les associations devaient attendre un an avant de recevoir de l'argent, donc ce n'est pas forcément le cas. Et on a aussi donc, maintenant, on a depuis en fait, la création du centre événementiel, il y a maintenant des subventions qui sont en fait pour la location du centre événementiel. Donc c'est donc un mouvement qui consiste en fait à louer le centre événementiel et donc à faire payer les associations ce centre événementiel au tarif association, mais du coup de leur donner immédiatement, voire auparavant, en fait, l'équivalent en montant. Donc voilà, donc nous, là-dessus, en fait, une seule remarque, bon, c'est un moyen de... Effectivement, ce centre événementiel existe, donc c'est un moyen de l'occuper. C'est aussi un moyen de... voilà, c'est surtout un moyen de l'occuper par des associations de la ville. On avait juste un point, enfin, nous, sur lequel on sera vigilant. Ça fera... donc quand la société publique du centre événementiel donnera ses comptes, ça fera des recettes, ça affichera des recettes au centre événementiel qui sont en fond voilà, des recettes payées par la mairie. Donc on sera juste vigilant là-dessus. Ça fait, voilà, pour en fait voir la viabilité du centre événementiel, c'est bien sûr des recettes qu'il faudra déduire, puisque en fait ce sont des recettes de subventions de la ville. Voilà, sinon on n'a pas d'autres remarques sur cette décision modificative.
Concernant les subventions, concernant le centre événementiel, de manière générale, le centre événementiel, il est dédié à un certain nombre d'activités. Une première partie des activités, il y a trois grandes activités. Il y a une partie qui est des activités de spectacle, et de commercialisation donc des espaces pour des événements, donc spectacles et événementiels, qui se déroulent déjà, dont un certain nombre se sont déjà déroulés depuis son ouverture. On peut noter au passage la qualité également des spectacles qui sont réalisés. Une deuxième partie qui est une mise à disposition donc aux associations. Et d'une manière générale au public, hein, au cours de loisirs. Et enfin, une troisième utilisation qui est une utilisation pour les besoins de la ville. Voilà. Pour les besoins de la ville, correspondant à des animations, je pense notamment à des événements comme la réception du nouveau cours de loisirs, comme Vita Ville, etc. Ce centre a plusieurs vocations, répondre à des besoins de la ville et de ses habitants, mais également, donc c'est une première partie, et par ailleurs, à une deuxième fonction qui consiste à y réaliser des activités, des spectacles et une commercialisation afin de le rentabiliser au mieux et d'optimiser son coût de fonctionnement. Alors je pense pas qu'il faut parler de viabilité. C'est pas un terme qui convient sur un équipement public. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, la commercialisation qui sera faite tant en matière de spectacle qu'en matière de commercialisation événementielle puisse nous permettre de couvrir au mieux les coûts de fonctionnement de cet ensemble, de manière à ce que cet ensemble ait un coût le plus limité possible sur le budget. Voilà. Mais chaque ville qui a un centre, une salle des fêtes, un centre de congrès, etc., supporte inéluctablement des coûts. Donc ne parlons pas de viabilité, parlons d'outils mis à la disposition des habitants, mis à la disposition des associations, et commercialisés pour produire des spectacles qui vont répondre à des besoins exprimés par la population, et à une commercialisation purement commerciale, ce qui explique effectivement les contraintes formelles que nous sommes obligés de respecter.
Oui, monsieur le maire, merci. Petit complément. D'abord, monsieur le rappeur, rappeler que les subventions font l'objet
désormais, c'est assez récent, la nomenclature, on a vu que désormais, par un arrêt, on reconnaît la capacité pour la collectivité à subventionner, y compris donc, par des apports en moyens, matériels et autres, etc. Très intéressant ce texte.
Il
faudrait que chacun le regarde et on voit qu'il y a une vraie volonté du législateur de permettre à la collectivité de favoriser l'activité du monde associatif. De ce point de vue, votre intervention, la liaison que vous en faites avec le centre événementiel me paraît un peu excessive. Je ne porte pas de jugement, mais je vous donne mon opinion en l'espèce. Ça paraît un peu excessive parce que, au fond, nous rendons des services en offrant ce lieu, qui est un service à la population. Quand une association décide de faire un événement sur la qualité de cet événement dont nous prononçons pour donner une subvention, voire pour donner une subvention complémentaire, nous ne le faisons pas forcément en leur donnant l'obligation de créer l'événement dans le centre événementiel. Il n'y a pas de fléchage de la subvention sur le centre événementiel. Ça peut se faire, c'est un élément de compréhension du dossier, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas écrit quelque part que pour avoir une subvention, pour favoriser le développement de l'association, il va absolument passer par le centre événementiel. Donc il n'y a pas de corrélation, comme vous le sous-entendez. Et par ailleurs, rien n'empêche les associations d'aller ailleurs. Mais nous, on trouve assez logique de favoriser leur capacité, pour un coût qui est celui du service public, de pouvoir accéder à cet outil qui est sur notre territoire. Je préfère comprendre que les associations fassent des événements sur le territoire de notre droit, qu'on y gagne ou qu'on n'y gagne pas d'argent, plutôt que de les voir faire de l'événement ailleurs.
Je suis quand même surpris que vous parliez de qu'il n'y a pas de fléchage. Enfin, là, quand on voit juste la délibération, il y a juste marqué clairement, enfin, si, sauf erreur de ma part, mais il y a marqué le nom de l'association, entre parenthèses, location et centre événementiel.
Entre parenthèses, c'est quelque chose qui illustre, je vous l'ai dit à l'instant dans mon propos, c'est l'illustration du projet, de ce qu'ils veulent faire. Ils sont obligés de nous dire pourquoi ils nous demandent une subvention complémentaire. Ils pourraient aussi bien nous dire que c'est pour aller faire une animation sur les quais de Seine. C'est pas... Il n'y a pas une obligation, vous voyez ce que je veux dire par rapport à ce que vous entendiez comme quoi on a besoin de rentabiliser à tout prix le centre événementiel, on ne pousse pas la rentabilisation du centre événementiel. Quand on nous demande une subvention complémentaire parce qu'on veut faire un événement au centre événementiel, c'est précisé que c'est au centre événementiel, mais c'est une précision par rapport à la compréhension du dossier. Compréhension du dossier.
J'ai une question, parce que c'est quelque chose qui. Votre intervention, du coup. Donc en pratique une association qui veut. Aller au centre événementiel, comment ça fonctionne? Donc si vous êtes d'accord, comment financièrement comment ça se passe du coup? Vous avez le. La subvention se fait avant le. Il y a bien un transfert financier ou pas?
Si vous faire un événement au centre événementiel, il y a une grille tarifaire pour louer.
Une association qui veut faire un événement, déjà, elle demande une salle. Alors, il y a un fléchage, effectivement, parce que le service des relations publiques va déjà examiner la demande et examiner avec l'association, avec ses représentants, quelle est la salle correspondante ou adaptée à l'événement. Ce n'est pas forcément une salle du centre événementiel, donc il y a déjà un échange qui est fait à ce niveau-là pour bien comprendre l'événement et puis pour donner ou mettre à disposition. La salle qui correspondra exactement aux besoins de l'association. Il y a déjà ce premier fléchage qui est fait, si on parle de fléchage. Après, derrière ça, si effectivement la salle doit être une salle du centre événementiel, il y a donc effectivement un devis qui est effectué, puisque là il y a des tarifs qui sont exécutés, et ensuite qui donne lieu de la part de l'association si elle souhaite effectivement, si son budget lui permet de financer, elle le finance, si les recettes que génère l'événement pour l'association lui permettent de financer le coût, bon, elle le prend en charge. Si ça lui pose un problème, elle sollicite effectivement une subvention et qui est ensuite examinée comme toute autre subvention sur la base du projet.
Bon. On va compter sur ceux qui ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire le vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Dossier suivant, monsieur Akin. Merci, monsieur Gimonet.
Demande de subvention pour l'installation du pont à chaleur à la SNCS.
Dans le cadre de la rénovation du chauffage de la SNDS, il est prévu d'installer sur la terrasse située au premier étage une pompe à chaleur RE. Le Conseil départemental des Hauts-de-Seine et le CIPEREC peuvent verser chacun des subventions s'élevant jusqu'à 20% de la dépense. Ce dossier a été présenté à la Commission de l'urbanisme du patrimoine et de l'environnement le 18 mai 2015. Il est demandé au Conseil d'autoriser M. le maire à solliciter du CIPEREC et du Conseil départemental des Hauts-de-Seine des subventions d'un montant aussi élevé que possible en vue de l'installation de pompes à chaleur dans les locaux de la SNDS.
Est-ce que vous pouvez nous préciser dans quel cadre la SNDS souhaite renouveler son contrat de chômage?
Alors, je n'ai pas très bien entendu la question, mais je crois l'avoir compris.
Dans quel cadre la SNDS renouvelle son chômage?
Alors ça, il s'agira de l'eau chaude. C'est utilisé pour l'eau chaude. C'est une dépense totale qui est à peu près de 50 000 euros. Et donc ça fait une subvention au total qui peut atteindre 16 666 euros.
Deuxième question à ce sujet. La SNDS aura-t-elle les moyens d'entretenir son nouvel équipement régulièrement, c'est-à-dire en moyenne une fois par mois, et est-ce qu'elle a prévu le budget correspondant?
Merci. Oui, alors ça c'est effectivement une bonne question parce que c'est un élément important de ce genre de dispositif de pompe à chaleur. C'est ça, c'est la nécessité d'avoir un entretien correct. Et ça, il n'y a pas de problème là-dessus, ça a été évalué.
Bon, je porte quand même quelque chose.
Bon, qui s'abstient, qui compte, merci de chez vous, monsieur le maire.
Convention d'occupation du domaine public pour l'installation et l'exploitation d'une station de recharge de véhicules électriques. Aujourd'hui, le développement des véhicules électriques prend de l'ampleur dans la vie des citoyens. Cependant, l'utilisation de ces véhicules est actuellement confrontée à la recherche de réseaux de bornes de charge dits à charge rapide ou à charge accélérée. Aussi, dans le prolongement de la volonté de la ville d'obtenir d'autolib des stations de véhicules électriques, la société Sodetrel, filiale d'EDF, propose la mise à disposition sur voirie d'une borne de recharge pour les particuliers dans le quartier du Faubourg de l'Arche. Cette borne est installée gratuitement. En contrepartie, la ville ne percevra pas de droit de voirie pour l'occupation du domaine public. Ce dossier a été présenté à la Commission d'urbanisme, du patrimoine et de l'environnement le 8 mai 2015. Il est demandé au Conseil d'approuver la convention d'occupation du domaine public pour l'installation et l'exploitation d'une station de recharge pour les véhicules électriques et d'autoriser M. le maire à signer et exécuter cette convention et l'ensemble des documents y afférents.
Merci. Question.
Est-ce que ce service sera facturé aux usagers?
Alors, on pourra s'abonner. En fait, l'utilisation de cette borne est accessible pour tous les particuliers après inscription sur le site internet de Sodetrel ou bien directement par téléphone. On envoie un SMS muni d'un code. En retour, le client reçoit un code d'accès temporaire qui tape sur la borne. Alors, le coût de la charge, c'est un coût de 7 euros TTC par charge, sauf dans le cas où la personne est abonnée. Abonnement de 5 euros TTC par mois, et puis 3 euros par charge. Alors, c'est des offres de départ, parce que c'est quelque chose de nouveau et ça peut évoluer. En fait, cette borne, c'est surtout une borne de démonstration qui permettra de tester pour voir si intéressant d'installer ce genre de borne. On a quand même une recharge à 80% en 20 à 30 minutes. Ça facilite le développement de la voiture électrique.
Est-ce que vous en envisagez d'en créer?
Trop tôt pour le dire, on va faire cette expérimentation tranquillement.
Qui s'abstient, qui est contre, merci, dossier suivant.
convention de délégation de compétences en matière de transport à la demande. Depuis avril 2010, la ville dispose d'une délégation de compétences de la part du syndicat de transport de l'île de France afin d'organiser sur son territoire un transport à la demande dénommé Turbiabus. La délégation de compétences étant arrivée à l'expiration, la ville engage les démarches nécessaires auprès du STIF pour procéder à son renouvellement. Il est également précisé que le syndicat maintient sa subvention au bénéfice de la ville d'un montant annuel de 26 317 euros pendant la durée de la convention, soit 5 ans. Ce dossier a été présenté à la commission de l'urbanisme, du patrimoine et de l'environnement le 18 mai 2015. Il est demandé au Conseil d'approuver la convention de délégation de compétences en matière de transport à la demande avec les syndicats, avec le syndicat des transports de France et d'autoriser M. le maire à engager toutes les démarches nécessaires ainsi que signer et exécuter tous les documents y afférents.
Question. Question. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci M. Hacquard. M. Jean.
Je suis public local, centre événementiel et culturel, présidence et direction générale. Dans sa séance en date du 9 février 2015, le conseil municipal a approuvé la constitution de la société publique locale SPL, centre événementiel et culturel, ayant pour objet social la mise en œuvre de l'action de ses actionnaires, de l'île de Bois et de la Garenne. De toute action ou opération de gestion, de promotion concernant l'exploitation des services publics ou d'activités d'intérêt général qui relèvent des domaines culturels, sportifs, des loisirs et du développement économique. Il est notamment envisagé de lui confier par convention de délégation de services publics la gestion du centre événementiel, de l'espace Carpo et du cinéma à Bellevue. Au terme de cette délibération, le Conseil a autorisé M. le maire à assurer la présidence du Conseil d'administration en son nom, dans le cas où celui-ci désigne la ville de Courbevoie à cette fonction. Il convient désormais d'autoriser M. le maire à assurer également les fonctions de directeur général au nom de la ville dans l'hypothèse où il assurerait la présidence. Ce dossier a été présenté à la Commission des sports et de la culture le 21 mai 2015. Ils ont demandé au Conseil d'autoriser M. le maire à assurer les fonctions de président-directeur général au nom de la ville dans le cas où le Conseil d'administration de la société publique locale, centre événementiel et culturel, la désigne à cette fonction.
Question. Oui, monsieur.
Monsieur le maire, là on s'interroge vraiment beaucoup sur ce cumul des fonctions. J'ai pas compris, pardon. On va vous dire pourquoi on s'interroge. Le centre événementiel a coûté donc des dizaines de millions, à peu près 60 millions. Plus d'un an après son inauguration, le centre peine encore à assurer son niveau de rentabilité. Alors je suis d'accord que ce n'est pas uniquement une association qui doit le rentabiliser, mais pour un équipement à 60 millions, il y a une partie.
30
pour le bâtiment.
Pour le centre événementiel. À chaque conseil, vous mettez le double.
Ah oui, parce que les 30 millions.
On va y arriver.
Donc les 30 millions, ils sont sur le bâtiment Colomb, c'est ça?
Non. C'est 32 millions pour le bâtiment. Centre événementiel. Voilà. 63 millions pour le gymnase avec le restaurant, etc.
Ah, le bâtiment Colombe, d'accord. Donc l'ensemble de l'opération a coûté 60 millions et la partie qui sera en activité commerciale est d'une trentaine de millions.
C'est le centre événementiel pour 30 millions. Bien noté.
Hein. Oui, j'ai bien noté.
Erreur, hein.
30 millions donc pour la partie commerciale et 30 millions pour la partie non commerciale.
Commerciale, c'est à côté de vos groupes.
Alors, dites-moi, j'ai excusé.
Oui,
c'est
ça
pour 30 millions. Ok, d'accord.
La ville a réalisé en 2011 la construction de deux structures différentes. Mais la première, c'est le centre événementiel,
qui est sur le parvis qui donne sur le boulevard Racine Briand, où il y a les salles de spectacle, les salles de réception, l'atrium, etc. Et tout. Il y a ce qu'on appelle le centre événementiel. Premier bâtiment. Deuxième bâtiment, le bâtiment Colombe. Il n'a rien à voir avec le centre événementiel. C'est un bâtiment qui donne sur la rue Colombe, qui a remplacé l'ancien gymnase Colombe, qui était désuet, défectueux, etc., pour en refaire un nouveau gymnase, un restaurant municipal, des locaux pour les associations et des locaux pour accueillir la cuisine centrale avec le restaurant scolaire, mais également pour accueillir des enfants en centre de loisirs. Voilà. Deux bâtiments vraiment différents. Afin d'optimiser le coût de cette construction, de ces deux constructions, de ces deux bâtiments, la ville a réalisé un marché unique. Le fait de construire ces deux bâtiments ensemble a permis effectivement de réaliser des économies très significatives, alors que si on les avait construits séparément, ça aurait été beaucoup plus cher. Bien. L'ensemble du coût de l'ensemble de ces deux bâtiments est de l'ordre de 60 millions d'euros. Et le seul bâtiment centre événementiel n'a coûté qu'environ 30 millions d'euros. Voilà. Est-ce que c'est bien clair ?
Oui. Bien. Merci beaucoup. Donc je parle... Donc sur le bâtiment centre d'événementiel, donc cet équipement a coûté donc 30 millions d'euros, tout de même fort cher, et donc...
Moins que 60,
oui. Mais les cours de croisière ont vu une dépense de 60 millions sur ces dernières années, ce qui a d'ailleurs fortement augmenté la dette de la ville. Alors nous continuons. On pouvait s'attendre quand même, on met en général un directeur général à plein temps qui va, dont la mission va être effectivement de faire vivre l'équipement et d'obtenir, d'arriver à le vendre sur la partie commerciale pour en tirer le meilleur profit. Et donc là, on se demande vraiment et on regrette. Que monsieur le maire, en fait, vous étiez, et c'est normal, président de l'équipement, mais que vous preniez la direction générale. La direction générale, c'est un travail quotidien. Vous assurez déjà plusieurs mandats et on ne comprend pas vraiment pourquoi vous prenez cette direction générale. Alors, de plus, on a vu que donc pour ce faire, vous avez dû faire une dérogation au statut, puisque la limite d'âge était 65 ans. Donc on se demande pourquoi il a fallu, et pourquoi, quel a été votre choix de prendre cette direction générale. Il nous semblait que, vu les enjeux, une personne dédiée à plein temps, ou en tout cas à une bonne partie de son temps, était nécessaire. Donc voilà, on se pose cette question-là. C'est quand même, si ça reste 30 millions, c'est un équipement dont la... Encore une fois, nous, on sera quand même vigilants sur la rentabilité commerciale. On s'attendait à avoir quelqu'un aux manettes dont la préoccupation soit quotidienne. Donc, par exemple, un fonctionnaire. Ou voilà. Donc on se pose cette question-là.
Monsieur. D'abord, je réfute ce que vous dites concernant l'aspect commercial, d'insister. Je rappelle qu'en principe, ce centre événementiel a une dimension commerciale à certains égards, mais que pour le reste, c'est quand même des festivités de la mairie, que certaines associations n'ont pas un caractère commercial, etc. Il y a uniquement la partie temporelle qui est une entreprise pour laquelle on va effectivement une démarche tout à fait commerciale. Donc il faut nuancer votre proposition. Pour ce qui concerne le reste, pour vous dire, au départ, on avait effectivement fait une démarche un petit peu différente de celle-ci, mais il se trouve que, et je vais prendre ces responsabilités-là, ceci n'est pas possible juridiquement. Bon, un premier vice-président, puisque voici, c'est le conseil d'administration, on est d'accord, je devrais l'être, puisque en tout cas j'ai posé ma candidature. Ne peut pas être directeur général. On avait pensé, on a vu dans un premier temps une réponse positive du juriste de la fédération des SPL, et puis 15 jours plus tard, ou un moment donné, on a reçu une lettre pour dire ça. Cette hypothèse n'était pas envisageable. Par conséquent, cette solution proposée à M. le maire de prendre la présidence et la direction générale est acceptée par la fédération de la SPL. Ce n'est pas impossible que M. le maire
par exemple un directeur ou un délégué, ça c'est possible, à la tête du centre événementiel. Je pose ma candidature.
Oui, oui, monsieur.
Merci, monsieur le maire. Le maire, je ne suis pas d'accord du tout avec Alban Thomas, là. Le maire doit incarner le management de ce lieu qui est emblématique. Donc il est normal que lui soit en première ligne. Pour ça qu'il se délègue à quelqu'un d'autre, c'est tout à fait logique aussi. Mais que le maire ne soit pas en première ligne sur un lieu aussi important, c'est juste n'importe quoi. Donc là, c'est vraiment de démagogie totale. Et je pense vraiment que le maire qui est en lien direct avec la plupart des entreprises, toutes les associations, toutes les forces vives de la ville, doit être en première ligne. Donc c'est que lui ne soit pas en première ligne, c'est juste n'importe quoi. Ça veut dire que voilà, il doit être le manager de ce lieu qui est emblématique, parce que c'est lui qui le porte. Et qui le porte avec tout le monde, après ça c'est autre chose, et c'est normal. Mais il doit, et c'est dans ses prérogatives de mener ce lieu. Il va le faire avec d'autres personnes, il va le déléguer, mais il doit être en première ligne, ça c'est obligatoire.
Alors j'aurais deux remarques donc, sur cette interpellation de mon collègue. Il nous semble, nous, et on le maintient, que la bonne gouvernance, c'est la présidence d'un côté et la direction générale de l'autre. C'est en général la norme pour un certain nombre d'établissements publics. Ça devient d'ailleurs de plus en plus le cas aussi pour les entreprises. On pense, enfin, moi je pense par exemple à l'OPH. On sait qu'il y a eu, nous on a entendu parler de difficultés, donc c'était effectivement dans la mandature précédente, avec une présidence. Si la présidence est trop proche et empiète sur la direction générale, on confond les rôles. La présidence, selon nous, notre vision, c'est effectivement être. La représentation politique qui insuffle la volonté et les grandes lignes, mais la direction générale est plutôt là pour gérer le quotidien. Donc, dire de manière outrancière c'est n'importe quoi, je trouve ça un petit peu facile de la part de mon collègue. Et alors, sinon, je reviens sur un autre point. Je vois quand même que vous nuancez de plus en plus la notion de viabilité économique du centre événementiel. Donc, M. Jouinet, vous nous avez rappelé qu'il y a trois vocations, donc les spectacles, les associations et la ville. Vous nous aviez dit dans un précédent conseil que vous visiez un équipement autosuffisant dans les trois ans. Donc, en fait, moi, la question que j'aurais la suivante, c'est en gros entre les différentes recettes des spectacles, mais aussi les recettes en provenance des associations, dont on voit comment elles sont, en fait. C'est un fléchage d'argent de la mairie. Du coup, quand vous dites que vous envisagez dans ces trois ans un équilibre, c'est un équilibre de quel, j'imagine, de l'ensemble des postes, mais du coup, on peut se poser la question de quelle sera la. L'ampleur, la proportion de la partie spectacle, de la contribution de cet équilibre. Parce que la partie association, c'est forcément, enfin, c'est de l'argent qui sort de la poche de la mairie pour aller dans la poche du centre événementiel. Donc du coup, si vous pouviez peut-être me clarifier ce que vous envisagez comme équilibre d'ici trois ans.
Je pense que vous faites partie du conseil d'administration, qui appartient au conseil d'administration. De vous donner toutes ces informations. Moi, le délit d'entrave, je ne connais pas et je n'en veux pas. Monsieur,
je ne m'avais pas peut-être. Lorsque nous avons exprimé ce souhait, cette ambition de fixer qu'au bout de trois ans, l'ensemble des coûts de fonctionnement de l'outil puissent être équilibrés par rapport à la au fonctionnement, c'est effectivement une ambition, ça n'a rien de mathématique. C'est le souhait de mettre en place une organisation qui nous permette d'atteindre cet objectif pour des raisons simplement budgétaires. Maintenant, sachez que organiser des spectacles, ça coûte de l'argent. Hein, aujourd'hui, si l'espace Carrefour réalise un certain nombre de spectacles, pour pouvoir les faire et les réaliser dans les conditions où ils sont commercialisés auprès des Courbevoisiens, ça réclame des subventions. Vous votez, on vote tous des subventions au profit du centre culturel pour effectivement réaliser ces spectacles. Hein. Donc ne détournez pas les choses. L'objectif, la partie commerciale, elle a pour but
de couvrir les frais de fonctionnement. Voilà. On ne va pas chercher à faire du profit sur le centre événementiel. C'est un équipement public qui est destiné à la population. Donc, par contre, que nous ayons l'ambition que les recettes que l'on puisse en tirer viennent couvrir les charges, ça me semble une ambition tout à fait louable. Alors, au-delà de ça, effectivement, et ça, nous en avons parlé en commission finance, sur ce bâtiment qui a donc des activités commerciales, la ville est assujettie à la TVA. Et donc, c'est important puisque le fait d'être assujetti à la TVA pour les activités de ce bâtiment ne nous permet pas de bénéficier du fonds de compensation de TVA comme on en bénéficie, donc le remboursement de la TVA sur les investissements par État. Donc l'assujettissement à la TVA nous amène à exercer une demande de remboursement de TVA auprès du Trésor public, en contrepartie de laquelle, pendant l'exploitation du bâtiment, la ville devra donc dégager des recettes taxables. Et toutes les occupations qui seront effectivement réalisées, soit par des tiers, autres que pour la ville, donneront lieu effectivement à des facturations. Voilà. De manière, effectivement, c'est le cas aujourd'hui quand on réalise des spectacles, des facturations. Demain, ce sera des facturations directement à la place. Aujourd'hui, c'est une mise à disposition de la salle par du centre culturel, etc. Voilà. Il y a une problématique économique et fiscale et donc financière. La TVA récupérée sur cet investissement, c'est 5 millions d'euros. Vous comptez grosso modo 30 millions sur 15% sur 30 millions, vous allez voir, on va retrouver dessus. Donc c'est 5 millions d'euros, donc c'est pas neutre.
Et c'est ce qui explique le processus avec.
C'est bon. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Donc, spectateurs qui ne viendront pas d'autres centres événementiels. Bien.
Ça n'a pas de spectateur. On est contre la confusion des rôles de présidence et de direction générale.
Monsieur Jean Mercier, Madame Leclerc, on va passer à Monsieur Spiri, s'il vous plaît.
Oui, merci Monsieur le maire. J'excuse un peu qui est retenu dans une autre réunion. Il s'agit de clôture du marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un bâtiment à usage associatif et de centre de loisirs pour le Val. C'était le Val 40. Un marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un bâtiment à usage associatif et de centre de loisirs pour le Val a été notifié le 26 mai 2010. Un groupement solidaire composé de la société SARLK Architecture, mandataire, les éco-traitants Bâtisseurs Ingénierie, Batac, Catac, Fabrice Bougon, Église Paysagiste, Technicité et ACT Environnement. Sa durée était fixée à 45,5 mois à compter de sa notification. Ce marché a été conclu pour un montant forfaitaire de 598 402,82 € hors taxe, soit 714 187,77 € Un premier avenant, notifié le 18 février 2011, a corrigé une erreur dans le tableau de répartition des honoraires entre les membres du groupement, sans incidence financière. Un avenant numéro 2, notifié le 22 avril 2011, a eu pour objet l'approbation de l'avant-projet définitif du marché, ainsi que la fixation du coût prévisionnel des travaux et du forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre. Un avenant numéro 3, notifié le 3 octobre 2010, a eu pour objet de préciser les modalités de variation des prix et la durée de validité du marché sans aucune incidence financière. Le marché expire à la fin de la période de garantie de parfait achèvement.